Donc, bonjour, nous sommes en compagnie du dessinateur Philippe Bucher, donc à l'occasion de la sortie du tome 14 de la série Sillage. Donc Philippe, merci de bien
Ben
d'avoir voulu
bonjour.
accepter de répondre à nos questions.
Bonjour, c'est un plaisir.
Donc alors pour commencer, pouvez-vous nous retracer votre parcours et nous indiquer comment vous en êtes arrivé à la BD?
Déjà, j'ai toujours dessiné, donc c'est déjà un point positif pour faire de la BD, mais je me suis plus orienté vers l'illustration. Et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années comme illustrateur pour diverses agences de communication. Et un jour, j'ai rencontré par le biais d'un ami commun dessinateur, le scénariste Jean-David Morvan. Et puis il m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main pour travailler avec un autre dessinateur sur une série qui s'appelait Nomade, qui était déjà une série de science-fiction. Et donc j'ai fait un peu assistant, ce qui était très bien, parce que moi je voulais un peu apprendre les mystères de la bande dessinée, ce que c'est qu'une narration, un découpage BD. Et du coup, j'ai travaillé pendant un an et demi à peu près sur les deux premiers tomes de Nomade avec Sylvain Savoya, qui est l'auteur, le dessinateur principal. Et puis après, avec Jean-David, eh ben, on avait envie de monter un projet ensemble, tous les deux, puisque en plus Sylvain avait envie de reprendre la série Nomade tout seul pour pouvoir mieux maîtriser son univers. Et donc, on a présenté divers projets, et puis le projet Sillage a été signé chez Delcourt, et après une année difficile où on a présenté vraiment beaucoup de projets un peu partout. Et puis c'est Delcourt qui nous a dit, moi je voudrais que vous me fassiez de la science-fiction, vu le dessin de Philippe, moi je trouve que ce serait bien que vous fassiez du space opéra, et moi c'est finalement l'univers qui me plaisait le plus. Donc on a rapidement monté un projet qui a beaucoup changé et qui est devenu après Sillage, et c'est ainsi que c'est parti. J'ai abandonné ma carrière d'illustrateur indépendant pour ne faire que de la bande dessinée au bout du troisième tome à peu près.
Alors donc, quelles sont vos influences au niveau du dessin?
Ah ben elles sont très diverses parce que finalement moi j'étais assez bande dessinée franco-belge. J'étais nourri à Pif Gadget par exemple quand j'étais vraiment enfant. Un petit peu de j'étais vraiment un amoureux du dessin de Franquin, je suis toujours d'ailleurs. Et puis avec Jean-David, lui était allé au Japon, c'était un des premiers auteurs à vraiment à ramener des mangas en japonais, puisqu'à l'époque il y avait très peu de choses traduites, et il avait vraiment découvert tout d'un coup une manne, un univers de bande dessinée incroyable, parce que le manga fait des années que ça existe, ça existait, et c'est très vaste. Et donc il m'a fait découvrir après les premiers mangas qui ont été traduits, que ce soit Akira, qui a été vraiment une bonne claque, et puis d'autres bandes dessinées, par exemple en particulier de Shirow Masamune, qui s'appelait Appleseed, et Orion, et enfin les BD qui avaient été traduites en français. Et vraiment là, c'était vraiment une claque pour le design, moins pour l'histoire qui était plus difficile à appréhender qu'Akira, par exemple. Et puis après, il y a une BD qui m'avait marqué, c'était L'homme qui marche de Jirō Taniguchi, parce que ça présentait vraiment une autre facette du manga, c'est-à-dire c'est pas de l'action, c'est du quotidien, et c'est une bande dessinée muette, donc internationale, et qui avait la grosse avantage de présenter vraiment non seulement le Japon tel qu'il est, mais aussi ce que peut être l'esprit, un peu l'esprit japonais. Et donc, et il m'a aussi fait lire beaucoup de comics d'auteurs que je connaissais pas et qui m'ont bluffé, comme Sienkiewicz et Frank Miller. Et donc voilà, après c'est devenu mes influences aussi, tout le mélange finalement, d'essayer de mélanger mes influences de bande dessinée classique avec une mise en scène plus proche du manga, et puis un côté aussi brutal qu'il peut y avoir dans les comics de Frank Miller.
Et donc au niveau de ce tome 14, il y a notamment la créature qu'on voit en couverture. Et donc de quoi vous vous êtes inspiré pour cette dernière?
Ben, au départ, j'étais parti comme c'était un prédateur, une sorte de prédateur armé par la nature pour tuer les autres êtres vivants. J'étais parti vraiment sur l'idée d'une mente religieuse, de quelque chose, parce que je trouvais que l'articulation des pattes de la mente religieuse, c'est intéressant. Surtout si mon personnage, je le gérais et qu'on découvre dans un deuxième temps comment fonctionnent ses membres, je trouvais ça assez intéressant. Et puis pour la tête, j'ai fait beaucoup d'essais et à un moment j'avais focalisé sur un crâne de chat, parce que j'avais un copain dessinateur qui collectionnait énormément de crânes d'animaux. Et il avait dans son tiroir de bureau des crânes de souris, et il y avait un crâne de chat. Et je trouvais que c'était intéressant parce que ça avait une personnalité très forte. La forme, enfin, les os assez délicats, mais en même temps avec une mâchoire assez impressionnante quand elle est complètement dénudée comme ça. Donc j'ai essayé de travailler sur plusieurs choses. Et puis finalement, après, je suis tombé sur une espèce de mélange entre une forme très d'ossature pour la tête du personnage, et puis quelque chose d'assez insectoïde. Et en plus, après, j'ai rajouté des épines sur le dos, souligner la colonne vertébrale, et puis une queue assez souple pour lui permettre de nager, parce que finalement, il peut même survivre dans le vide absolu. Donc c'est une espèce de créature, un espèce de tueur idéal, quoi, finalement.
Et donc, toujours au niveau du dessin, qu'est-ce que vous aimez le plus? Enfin, est-ce que vous préférez dessiner les personnages, les créatures, le décor, tout ce qui est accessoires technologiques, je dirais, les vaisseaux spatiaux, etc.
Ben, au départ, quand on a commencé la série, moi j'avais beaucoup de carnets où je dessinais beaucoup de machines, parce que j'aime beaucoup le design, et j'étais plus branché finalement technologie. Et le fait que Jean-David, au départ sur le premier tome, nous ait écrit une histoire qui se passe vraiment entièrement dans la jungle, où il y a peu d'éléments technologiques par rapport au décor naturel. Et finalement, je me suis dit, tiens, c'est intéressant aussi. Et maintenant, j'aime autant créer des personnages, des personnages, j'aime autant créer des décors naturels, travailler sur les différents. D'ailleurs, ils sont assez terriens, entre guillemets, j'ai plus de mal à faire des décors vraiment extraterrestres, parce que je trouve ça toujours un peu, des fois un peu ridicule quand je commence à faire des designs avec des plantes bizarres. Alors que on place tout de suite l'univers si on est dans des rochers, on a des plantes un peu luxuriantes. Et puis les personnages, finalement, je crois que j'aime dessiner autant chaque chose. J'aime bien créer des extraterrestres un peu bizarroïdes ou un peu stupides ou un peu mignons. Et puis j'aime bien dessiner les machines toujours, essayer de trouver des formes d'engins, les costumes aussi. Et finalement, il y a une part de design que j'aime beaucoup. C'est ce qui fait aussi que je me lasse pas de travailler sur sillage. Mais il n'y a pas de choses que j'aime pas dessiner. Et si j'aime pas les dessiner, je me dis c'est louche, il faut que je finisse par aimer ça. Donc c'est que et donc au bout d'un moment, ça vient. C'est vrai que l'avantage de travailler aussi avec un scénariste, c'est qu'on se retrouve confronté à dessiner des choses qui sont un peu des challenges, alors que si on scénarise soi-même, on a tendance à écrire en fonction de ses facilités et donc finalement à moins progresser dans le dessin. Et donc ça, c'est intéressant aussi. J'aime bien finalement les contraintes et de temps et scénaristique et de mise en scène parce que ça oblige à trouver des solutions. Et donc c'est intéressant pour progresser parce que c'est le truc intéressant dans le dessin, moi je trouve, c'est d'essayer d'évoluer un petit peu dans son trait, d'apprendre à dessiner des choses. Donc même en anatomie, je trouve que j'ai appris beaucoup de trucs du premier au dernier sillage.
Donc il n'y a pas de. L'intérêt, c'est justement pour vous de pas vous cantonner à ce que vous savez, mais aller toujours.
Oui, bah c'est vraiment l'intérêt. Finalement, j'ai pas beaucoup d'intérêt pour le livre quand il est terminé. Enfin, ça m'appartient plus, c'est un livre imprimé, c'est Delcourt qui vend le livre, etc. Mais moi, le réel plaisir, c'est de le dessiner. Après, qu'il soit, à la rigueur, j'allais dire qu'il soit imprimé ou pas, ça, c'est pas la chose la plus importante. Parce que finalement, je suis déjà en train de travailler. Quand le bouquin sort, moi, je suis déjà là en train de faire du design pour le prochain. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de dessiner. Parce que je suis un peu un dessinateur compulsif. Parce que même quand j'arrête de travailler, je me retrouve à crebarder sur des bouts de nappe ou de trucs. Parce que j'ai des idées qui me viennent ou de choses complètement différentes. Donc vraiment, je suis pas encore Robert Crumb, mais je peux passer du temps sans dessiner. Mais c'est vrai que c'est assez compulsif. J'ai besoin de dessiner. J'aime ça vraiment, quoi. Donc c'est un bonheur de pouvoir faire le métier. Et en plus d'être bien payé maintenant, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs. Donc ça, c'est super.
Comment vous voyez le chemin parcouru sur Sillage, en fait, justement, toute cette évolution, et est-ce que vous retrouvez toujours cet univers avec le même plaisir à chaque fois?
Ben, c'est un plaisir différent un peu parce que enfin, moi je trouve que la série a été plus enjouée au départ, d'un petit côté un peu humoristique, même dans mon dessin qui oscillait un peu entre un style réaliste parfois et un peu plus comment dire, un peu plus cartoon des fois sur certaines cases, mais qui était aussi lié au scénario qui était plus léger. Et là, peut-être, moi, ça me dérange un peu plus quand c'est un peu trop dramatique. Donc c'est pour ça que j'insuffle dans le scénario des petites scènes de détente, de trucs un peu plus... qui permettent de prendre une respiration dans... Parce que sinon, je veux dire, déjà, l'héroïne, moi, je serais elle, je sais pas, je serais en dépression dans un hôpital psychiatrique de l'espace. Mais parce qu'elle en prend quand même plein la tête. Et comme finalement le fond de Sillage, c'est un peu une critique de notre société capitaliste avec toutes les perversions que peut avoir un système où il y a corruption, trafic divers, c'est sûr que ça ne pouvait pas rester gai indéfiniment. Donc c'est assez difficile de jongler entre les deux, d'avoir quelque chose d'assez léger et d'aborder des problèmes qui sont... des problèmes assez dramatiques, quoi. Donc, je pense que le plus dur, c'est d'essayer de garder cet équilibre entre, parce qu'on fait quand même du space opéra. Donc, c'est à la base pour moi, c'est pas un univers qui peut exister. C'est un univers qui est déjà une sorte de fantasme du futur, parce que tout ce qu'il y a dans, enfin, ça ne correspond, rien ne correspondrait à ce que serait une évolution technologique normale. C'est-à-dire, on pilote pas des vaisseaux spatiaux. Personne piloterait des vaisseaux spatiaux. Il n'y a que des intelligences artificielles qui pourraient le faire en calculant 4 000 fois plus vite qu'un esprit humain. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle de dessiner quelqu'un qui s'assoit dans un vaisseau spatial, puis le vaisseau spatial. C'est plus drôle de faire quelqu'un, de dessiner quelqu'un avec un espèce de volant dans les mains. Donc finalement, c'est tout ce côté léger du space opéra qui est en équilibre avec les problèmes un peu de société qui sont dramatiques, que ce soit qu'on a abordé, mais d'une façon légère, parce que notre but non plus, c'est pas de faire une thèse sur l'esclavagisme, sur le capitalisme, sur la corruption, mais on donne une certaine crédibilité à l'univers, parce que son but, c'est de coloniser les planètes. Donc d'utiliser les ressources qui ne leur appartiennent pas. Donc forcément, on a forcément quelque chose qui est riche à exploiter, parce que ça fait partie de ce que les gens connaissent dans l'univers normal, quoi. Sauf que, bon, au lieu d'être des espèces de blobs verts avec 4 yeux, bon, ben, c'est des gars en costard cravate qui font la loi, quoi. Mais...
Et donc, plus précisément sur le personnage de Nevis, comment vous vivez aujourd'hui avec ce personnage qui vous suit depuis finalement un bon paquet d'années maintenant? Et comment vous la voyez évoluer par la suite?
Bah, finalement, le concept de Sillage au départ, c'était aussi de faire, d'essayer d'écrire une évolution d'un personnage complet. Et on voit qu'elle passe par différentes phases, parce que c'est sans essayer de faire comment dire, quelque chose de trop intellectuel, mais c'est intéressant de prendre un personnage qui est naïf, qui a une idée préconçue. Ce qui est assez drôle, c'est de faire évoluer un personnage qui a une idée un peu préconçue de ce qu'est un être humain, parce qu'elle en est un, et donc elle imagine que les êtres humains, ils sont trop super, qu'ils sont mieux qu'elle. Et donc ça c'est assez drôle, parce que finalement tous les lecteurs de Sillage connaissent les êtres humains, mais dans Sillage personne ne les connaît, même pas l'héroïne principale. Donc c'était un petit paradoxe assez marrant. Et de la faire aussi évoluer dans un univers qui lui est complètement étranger, comment elle peut s'intégrer ou ne pas réussir à s'intégrer. Et donc ouais, c'est un peu ce qu'on vit tous les jours, hein, quand on arrive dans un univers, même sans aller à l'étranger, dans un univers, dans une entreprise, dans des gens qui ont une façon de penser qui sont différentes, comment on réussit ou pas à s'intégrer, comment on se rebelle contre ça, ou comment on plie les chines. Enfin, à chaque fois, c'est intéressant de voir des personnes différentes dans le même univers, leurs réactions peuvent être complètement opposées. Donc, c'est le ressort un peu scénaristique de Sillage, c'est comment elle réagit face aux injustices de la vie, mais on ne peut pas toutes les corriger. Et c'est son défaut, c'est qu'elle voudrait tout le temps les corriger, mais c'est aussi parce qu'elle-même a son stéréotype de ce qu'est le bien et le mal. Elle a un côté manichéen, mais le but aussi de Sillage, c'est de lui faire comprendre, enfin que la vie lui fasse comprendre que c'est pas aussi simple que ça, et que le bien, c'est un peu abstrait, et le mal aussi, c'est un peu abstrait des fois. Et finalement, plus elle va évoluer dans des sphères de pouvoir elle-même, plus elle se rendra compte que à partir de quel moment on peut faire des sacrifices pour le bien de. C'est ce que avait bien réussi une série comme Battlestar Galactica, je trouve, par exemple, de créer toujours cette espèce de discussion, est-ce qu'on doit sacrifier une petite partie de l'humanité pour sauver le plus grand nombre ou pas? Et ça reste toujours, où on fait rien, où on essaye de sauver tout le monde, mais c'est pas toujours possible. Donc c'est ça le pouvoir, finalement les concessions qu'on fait, à partir de quel moment elles nous dévorent. Donc c'est ça qui est intéressant peut-être pour l'avenir de la série, sans en dévoiler trop, mais c'est finalement ce à quoi est confrontée toujours l'héroïne, de plus en plus. Finalement, au début, on a l'impression que c'est simple, mais déjà, dès le premier tome, c'était pas simple, parce que finalement, le méchant est un héros pour son propre peuple, parce qu'il les sauve tous, mais il est le méchant pour Nevis, puisqu'il veut détruire sa planète et même la tuer elle-même. Donc, c'était déjà sur un paradoxe qu'on jouait, c'est ce qui était amusant à faire. Donc, on essaye toujours de garder cette ambiguïté Parce que finalement, à part de très très rares expressions dans l'humanité, personne n'est complètement méchant et personne n'est complètement gentil. Donc c'est finalement les 99,9% de l'humanité sont faits de moments où ils pètent les plombs et ils sont capables du pire, et puis de moments où ils sont capables du meilleur. Donc le truc, c'est de réussir à se canaliser, et c'est ça qui est intéressant finalement. Donc voilà, c'est un peu le fil conducteur de la vie de Nevis.
Bon, là, on va passer un peu plus côté un peu plus général. Comment se passe votre collaboration avec Jean-David Morvan?
Ben très bien. Finalement, maintenant, on est, je dirais pas on est un vieux couple, mais un petit peu, on a un petit côté, on a énormément travaillé ensemble. Parce que si on rajoute un Wolverine qu'on avait fait ensemble, ça fait 15 albums, et donc ça fait ouais 14 ans, et même sur Nomade on travaillait déjà ensemble, même si c'était un rapport moindre, et finalement on se comprend assez vite, et on anticipe même. Jean-David, il sait que moi il y a des trucs que je dessinerai pas. Parce que ça m'intéresse pas par rapport à l'idée que j'ai de la série. Et puis moi je sais aussi que il y a des trucs dans la série les idées que je mettrai pas, parce que Jean-David, ça correspond pas non plus à sa vision. Donc pas on s'autocensure, mais on sait tous les deux, on a la même idée de la série en général. Et donc sur un scénario, on peut avoir sur un scénario d'un album, on peut avoir des petites divergences, mais si elles sont argumentées, chacun l'accepte. C'est-à-dire, si lui il va me dire ah, mais non, moi je fais ça parce que ça, et puis dans le tome suivant, ce serait intéressant. Je comprends tout de suite. Je dis ok, ah, ok. Moi cette scène me dérangeait, mais maintenant je comprends. Et on va la faire comme ça. Et quand par exemple, je rajoute une idée, il n'est pas contre si je sais argumenter pour dire ben non, là, c'est trop dramatique, ça fait trois scènes dramatiques de suite, il faut intercaler cette scène ici pour dédramatiser à ce moment-là. Et en général, on se comprend très vite. Mais on fait un peu toute cette soupe avant que j'en avis dans l'écriture des pages. On travaille beaucoup au départ sur. Ce qui correspond à peu près à une page de texte qui raconte grosso modo l'histoire, après qu'on ait fait une sorte de petite réunion à échanger des idées, une fois qu'on est d'accord sur ce que sera le prochain album. Et puis à partir de ça, il écrit un petit synopsis, et puis après on recadre tous les deux les choses, on change souvent l'ordre des scènes, et à partir de là, il fait vraiment un synopsis, mais qui se découpe en c'est-à-dire, il va écrire une petite scène et il va mettre, ça sera de la page 1 à la page 12, par exemple, toute cette scène. Après, de la page 13 à la page 14, il y a une scène de 2 pages, c'est la rencontre là. Et puis, finalement, à partir de ça, ça permet d'avoir un peu une première vision de l'album. Là, on se refait une petite réunion tous les deux pour voir si tout est OK. Et à partir de là, il écrit les pages. Vraiment complète, c'est-à-dire page 1, il y a une colonne le décor, une colonne sur l'action, et puis une colonne de dialogue. Et donc après je prends les pages, je dessine avec aussi. Ça arrive des fois que même quand tout est écrit, à un moment on se dise oh tiens, l'un ou l'autre, il y a un truc qui colle pas là, moi je trouve ça, là est-ce qu'on pourrait pas le supprimer? Et puis c'est pas définitif tant que c'est pas dessiné quoi. Même quand c'est dessiné, ça arrivait des fois de refaire des pages parce que on trouvait que ça fonctionnait pas. Mais bon, ça arrivait ça plus sur, j'allais dire dans les 5 premiers que maintenant où on sait tous les deux ce que ça peut donner. On a une espèce d'anticipation de ce qu'est la page dessinée quand on l'a fait. Et même ça m'arrive des fois quand j'ai un doute, je peux faire un découpage hyper rapidement en tout petit et puis on voit tous les deux si on est OK. Parce que finalement, après, moi j'ai été au Japon pendant 5 ans, donc Jean-David y était épisodiquement et maintenant c'est l'inverse. Moi je suis en France, je suis revenu il y a 1 an et donc c'est l'inverse quoi, c'est Jean-David qui est loin, mais du coup ben, on réussit quand même à se ménager des moments où on se voit et puis. Internet, c'est magique.
Effectivement.
Pour le travail, en tout cas.
Donc, alors est-ce que les fans qui ont lu et donné leur avis sur la série depuis plus de 10 ans l'ont un peu influencé quelque part? Parce que c'est une série relativement longue, donc est-ce qu'il y a eu une influence de votre point de vue?
Je crois que. Enfin, moi, je sais pas parce que je prête absolument pas attention. Je veux garder. Enfin, la tête froide par rapport à un truc, donc je suis vraiment un internule, je vais pas sur les sites, je vais pas de BD, je vais pas sur les blogs, j'ai pas de Facebook, j'aime bien dessiner dans mon coin, et puis l'album sort, et comme je disais, c'est plus mon problème, moi c'était de le faire, après, ce qui est marrant, c'est que bon, j'ai quand même des retours presse, des critiques presse déjà par notre attaché de presse. Donc ça permet d'avoir un avis, mais c'est vrai qu'on a tout et son contraire. On peut avoir un album qui va se faire descendre dans un magazine et puis encenser dans l'autre. Donc je me dis c'est normal, parce que finalement, c'est pour ça que moi ça m'intéresse pas les critiques et les blogs et les opinions, parce que même moi, en voyant des fois, deux fois le même film, je peux me dire quelle daube, et je le revois à un autre moment où je suis plus concentré, plus sensible, ou je ne sais pas, et je vais dire, putain, mais c'était vachement bien. Et donc je me dis, c'est pareil, quoi. Les gens, déjà, une seule personne peut avoir des avis différents sur un même bouquin, un même film. Et donc je me dis, bon, je vais pas, parce que je sais que j'ai des copains auteurs qui sont démoralisés, s'ils se font descendre. Vraiment, ça les touche personnellement. Donc je me dis, je veux pas rentrer là-dedans. Je n'y fais pas attention, quoi. Finalement, il n'y a que mon opinion qui compte. Je me dis, si le bouquin, si quelque chose me plaît pas, je le refais. Et puis après, dans le délai qui m'est imparti, je travaille au mieux. Et puis c'est tout. Et puis après, que les gens aiment ou aiment pas, tant pis, quoi. C'est comme ça. Moi, je peux pas le refaire. Donc, et puis ça m'intéresserait pas de le refaire. Je préfère faire autre chose. Et c'est pour ça, des fois, je me dis, bah, quand je vois les... Moi, j'aime pas revoir mes bouquins, parce que je trouve toujours qu'il y a plein d'erreurs, qu'il y a plein de trucs moches. Mais quand je revois les premiers, je me dis, ah, il y avait des trucs bien dans la mise en scène, par exemple, mais le dessin, il y avait plein de trucs qui pêchent, ou je revois les petits trucs que j'ai utilisés pour masquer un peu les défauts de dessin. Donc, je me dis, tiens, c'est marrant, là, maintenant, je ferai plus ça. Donc, ça me rassure plutôt. Je me dis, bon, quand je revois le dernier album, je me dis, ah mince, j'aurais pu mieux faire ça et ça, et ça, c'est pas terrible. Mais je suis extrêmement dur avec ce que je fais. Donc quand, finalement, quand les gens me disent c'est nul, je dis, ouais, t'as raison. Donc, ça coupe court à toute discussion, parce que j'ai pas envie, en plus, les peu de fois où Jean David m'a mis en pièce jointe un blog, j'ai toujours du mal avec. Il y a toujours des gens, je sais pas, qui ont l'air vraiment haineux, envie de descendre tout, des gens hyper défenseurs. Et je me dis, c'est plus des luttes d'ego entre les gens, de vouloir passer ses nerfs sur un truc. Enfin, je sais pas, c'est pas constructif la plupart du temps. Je trouve que c'est pas tous, hein, bien sûr, mais certains blogs où j'ai des trucs, je dis mais il y a des trucs qui s'attardent sur des détails. Mais je me dis, mais ça vaut pas le coup de faire 4 pages de conversation sur un truc qui n'a aucun intérêt finalement. C'est pas ça qui fait le livre, c'est pas ce détail-là. Mais c'est bizarre, des fois on a l'impression d'être dans une discussion de café, des gens qui ont bu. Et puis des fois, il y a des blogs très intéressants, mais de temps en temps il y a des dérapages. C'est pour ça que moi je laisse tomber au bout d'un moment, enfin des blogs, c'est pas des blogs, c'est des forums. Les blogs c'est autre chose. Les blogs, il y en a des très bien, mais c'est unilatéral. Donc, voilà. J'aime bien quand c'est unilatéral, le mec il donne son avis. Et des fois c'est même pas ouvert à une réponse des lecteurs, où il choisit ce qui passe. Non, je parlais des forums, bien sûr. Et donc, les forums, il y a un peu tout et n'importe quoi, des fois. Donc, et c'est une perte de temps, les quelques fois où j'y suis allé, parce que Jean-David m'avait dit, ouais, va lire, là, c'est bien, où il m'envoie le lien, et puis après, du coup, je remonte pour voir. Et je m'aperçois que j'ai passé 2 heures, et pendant ce temps-là, je n'ai pas dessiné. Donc, je me dis, c'est pour ça que je joue plus aux jeux vidéo. Je vais au cinéma, et je regarde pas mal de DVD, parce que finalement, comme. J'étais pas mal en voyage au Japon. Je rattrape un peu. Vive la VOD, là, d'ailleurs. Je rattrape un peu les films. Donc, c'est bien. D'ailleurs, je vous conseille 8 mm.
8 mm,
ouais. Ouais, j'ai trouvé ça très, très bien. J'ai eu l'impression de retrouver un film de Spielberg, genre l'époque où il produisait les Goonies ou Explorer. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film Explorer que j'avais revu. Qui a un petit côté rétro, mais qui est très marrant.
Alors, sinon, donc, pour le tome 14, il a semblé qu'il marquait la fin d'un cycle, quelque part, avec l'évolution de... Enfin, un peu dans la carrière, entre guillemets, de Nevis. Est-ce que c'est bien le cas? Enfin, ça donne l'impression d'entrer dans une autre phase.
Oui, c'était... au départ, une idée, on avait l'idée de faire une sorte de trilogie. Au départ, je trouvais ça sympa, et après, j'aimais moins parce que je trouvais que ça. Finalement, j'aimais bien le côté sillage. On a une histoire, une aventure. Je trouve ça plus intéressant parce que c'est moins contraignant. Puis on fait un album par an et en un an, il passe de l'eau sous les ponts, comme on dit. Donc, se rappeler quand on est dans des espèces de scénarios alambiqués de qui a trahi qui, mais je faisais semblant d'être. Donc moi j'avais un peu peur, mais donc là je suis content d'avoir bouclé cette intrigue et de repartir. En plus là, Nevis, elle a un peu un statut particulier parce qu'elle peut travailler, être agent pour sillage si la mission qu'on lui donne correspond à son éthique. Parce qu'elle a eu l'impression d'être beaucoup manipulée, d'ailleurs ça a été le cas par un peu tout le monde. Et donc elle veut un peu gérer, donc finalement elle est une sorte Ouais, elle va être une sorte de PMC, là, des military contractors américains là, qui travaillent pour l'armée, mais qui ne sont pas de l'armée, comme ça, quand ils débordent, l'armée peut dire, c'est pas nous. Mais pas dans cet esprit-là, bien sûr. Mais elle peut choisir de travailler pour des clients privés ou pour le gouvernement de sillage ou encore pour je sais pas, une mission d'exploration. Donc ce qui lui permet de peut-être d'avoir des aventures un peu plus variées, des fois d'être peut-être en porte-à-faux avec sillage, d'être doublé, enfin de faire la même mission que des agents officiels mais pour un consortium ou quelque chose d'autre. Ou une mission humanitaire, parce qu'elle peut, elle peut. Finalement, c'est intéressant parce qu'elle a un nouveau statut. Elle est passée par le chômage, l'astreinte à non-résidence, là, et non, elle ne pouvait plus revoir ses amis. En plus, là, bon, on a réuni le trio Nevis, Snivel, Bobo, donc c'est pas mal. Ils vont pouvoir bosser ensemble et recommencer, parce que c'est une sorte de petite famille qu'on avait faite. Donc là, oui, effectivement, on repart sur peut-être quelque chose d'un peu plus... un peu dégagé de toutes ces scories. Depuis qu'il y avait eu, finalement, l'épisode avec Infiltration, avec l'attentat, finalement, ça traînait une espèce de conspiration qui remontait quand même au tome 4, je crois. Donc, c'est bien d'avoir bouclé un peu ce trafic de planètes et cette histoire de corruption définitivement et de pouvoir passer à autre chose.
Donc on change de cycle et donc bah, peut-être pour on va arriver vers la fin, donc on aimerait savoir un peu quels sont vos projets pour après.
Pour après,
les projets dans l'avenir.
Bah, c'est de continuer sillage, ça c'est sûr, puisque finalement on n'avait pas de nombre d'albums prédéfinis, mais en faire une trentaine, moi je trouve que ce serait un beau chiffre. Là, on va faire le 15 et ce sera la moitié comme ça. Donc on en reprendra pour 15 ans, à moins que je réussisse à faire deux albums en un an. Ça, on en avait parlé, peut-être de le faire au moins une année.
Oui.
Si on faisait un diptyque, de faire à 6 mois d'intervalle, de pouvoir avoir la suite. Ce qui est pas mal, parce que je me dis là au moins ça fait pas pareil que d'attendre un an et comme ça les gens ont rapidement l'intrigue résolue et on peut passer à autre chose, puisque finalement avec Jour J, qui est un album aussi chez Delcourt, qui était la conquête de l'espace par les Russes, et Wolverine, j'ai réussi à faire des années où j'ai fait deux livres, c'est-à-dire le sillage sur le premier semestre et un autre livre, donc ce qui permettrait peut-être une année de faire un sillage, mais ce qui me permet aussi, moi, les autres années, de travailler sur des projets personnels. J'ai un livre sur le Japon qui va sortir, là, un livre d'illustration chez Kana, et donc c'est bien de pouvoir aussi faire de ménager un peu de temps pour et continuer à faire sillage, parce que moi j'aime autant, toujours autant dessiner des extraterrestres idiots et puis des vaisseaux spatiaux alambiqués. Et puis de changer carrément d'univers, de faire, je sais pas, j'ai plein d'envies, donc après c'est plutôt de canaliser un peu tout ça. Est-ce que je vais faire une BD de guerre, est-ce que je vais faire des bouquins d'illustration, est-ce que je vais faire du livre pour enfants, enfin, tout est intéressant, donc c'est plutôt dur d'essayer de se discipliner un petit peu pour pas partir dans tous
les sens.
Mais de faire un livre assez différent tous les ans, ça me plairait assez bien. Ou si je faisais une série, ce serait genre une mini-série en 3 volumes par exemple.
D'accord.
Voilà. Donc voilà, les projets restent. Finalement, le fait que le professionnalisme, entre guillemets, me permette maintenant de passer 6 mois, au début c'était. Je passais 11 mois à dessiner et finalement chaque année je réduisais presque d'un mois parce que je recommençais pas les trucs, c'est-à-dire j'ai discipliné mieux mon travail, je faisais un découpage plus précis de plus en plus pour avoir moins de corrections sur les pages. Donc finalement maintenant dessiner un sillage c'est entre 5 et 6 mois quoi, avec les couleurs. Donc, voilà, ce qui est bien quoi, c'est pas, il y a des auteurs qui travaillent plus vite,
Mais il y en a beaucoup qui travaillent
moins vite.
Surtout que j'ai beaucoup de cases. Jean-David continue toujours à mettre 11, 12 cases.
Effectivement.
Donc, des fois, c'est dense. Des fois, les nuits sont courtes.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et donc, bon courage pour la suite.
Ben, ça va. Ça, c'est toujours un plaisir. Donc, ça va.
Merci beaucoup.
Merci à vous.